France Inter, le 7-9, intervenez.
Au 01 45 24 7000, on a d'abord Thomas qui nous appelle de l'Oise. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonjour Monsieur Lang.
Bonjour.
Alors moi j'ai une question toute simple. Pourquoi on continue de reculer comme ça au classement PISA?
Pourquoi je...
On continue de reculer au classement PISA, le classement international élaboré par l'OCDE, je crois, hein, sur les performances éducatives de notre pays.
Bon, alors ce classement, évidemment, comme tout classement, peut être discuté. Les critères sont pas nécessairement favorables à la France parce que, disons que les Français, c'est-à-dire c'est un des sujets du système français, les élèves français hein, dans ce système très vertical, très hiérarchisé qu'est le nôtre, même s'il s'est un peu ouvert à la créativité, fait que les élèves français, dans ces interrogations, n'ont pas la même spontanéité que les élèves des autres pays. Il n'en reste pas moins qu'il y a eu quand même 10 années de gouvernement d'abandon, de restrictions. Quand vous supprimez, il n'y a pas que ça, 150 000 postes, vous créez une situation extrêmement difficile pour les maîtres. Et puis, imaginez, monsieur, et je suis très inquiet sur les futurs classements PISA, pendant plusieurs années, un gouvernement de la République a supprimé, c'était unique en Europe, les écoles de formation des maîtres. Donc, pendant des années, des jeunes maîtres sont arrivés directement dans les cours, à l'école, au collège, sans aucune préparation. Et le métier d'enseignant, c'est un métier comme les autres qui s'apprend, le métier de docteur, le métier de journaliste, etc., sauf exception. Alors, le pourquoi, il est en partie là. Et en même temps, si dans le futur on veut faire mieux, je pense qu'il nous faut quand même changer l'esprit des choses. Faire que notre système puisse de manière plus attentive accompagner les 15% d'élèves qui se trouvent dans la difficulté, qui sont paumés, perdus. Pour moi, c'est choquant, et pour d'autres, que des élèves soient exclus, écartés. Et ça réclame beaucoup de patience, beaucoup d'entêtement, beaucoup d'amour, j'ose dire, et beaucoup d'enthousiasme.
À propos de la formation des profs, on a Jean-Claude qui nous appelle de la Drôme. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour, merci de ma question et merci pour vos émissions. J'ai été instituteur étant passé par l'école normale, puis ensuite professeur de mathématiques. Et j'avais une question donc à poser à Jack Lang, c'était de savoir s'il ne serait pas, devant la pénurie actuelle, nécessaire de revenir au système qui consistait à recruter à une date pas trop avancée dans la formation, alors pas après bac bien sûr, mais par exemple après la licence, bac plus 3, des enseignants, enfin des futurs enseignants, et à les former pendant 2 ans une formation rémunérée. Et ça a une très grande importance, parce que d'une part, ça permettrait à des jeunes que j'ai croisés, qui étaient surveillants, qui étaient assistants scolaires dans les établissements où j'ai exercé, d'accéder. Ils arrivaient en gros au niveau licence, mais après ça devenait très dur en travaillant d'aller plus loin et les familles ne pouvaient pas financer, donc d'accéder à un métier d'enseignement. Et deuxièmement, ça représenterait pour eux un engagement de la République, c'est-à-dire que vous recrutez des gens pour lesquels la formation était un ascenseur social, ce qui était le cas avant, quoi. Les fils de mineurs devenaient instituteurs, etc. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. C'est des gens en bac plus 5 en fin d'études qui éventuellement se recasent pour quelques années comme enseignants pour une part d'entre eux. Bon, c'est honorable, ils veulent gagner leur vie, mais ça crée pas des vocations. Donc voilà.
Merci pour cette question. Merci Jean-Claude.
Je suis entièrement d'accord avec vous et je l'ai préconisé plusieurs fois. Depuis plusieurs années, on a voulu élever le niveau, enfin, entre guillemets, de recrutement, la fameuse masterisation qui a été lancée par Darcos et tous les autres, est apparue comme un substitut à la formation pratique des maîtres. Vous savez que à l'époque de ce qu'on appelle l'âge d'or de l'école, on recrutait les instituteurs après le baccalauréat. Et en effet, vous avez tout à fait raison, une licence, c'était le cas d'ailleurs jusqu'à, voici, 5 ou 6 ans, une licence, c'est très bien. Je pense que vous venez de dire, je ne vais pas vous répéter, ce que vous venez de dire est parfait.
Bon.
Et je souscris totalement à ce que vous dites.
Martine, depuis Toulouse, bonjour Martine.
Bonjour. Bonjour Monsieur Lang. Voilà, je suis à la retraite, mais j'ai été pendant 27 ans proviseur de lycée professionnel, puis principal de collège. Donc je voulais quand même rappeler que Monsieur Lang avait mis en place les itinéraires de découverte lorsque Monsieur Jospin était Premier ministre, et on sait comment on finit ces itinéraires de découverte. on peut dire un fiasco, et que donc ce que met en place Madame Vallaud-Belkacem ressemble fort à ces itinéraires de découverte. En tout cas, ce que j'en ai lu dans la presse et ce que j'en ai lu dans le bulletin officiel de l'Éducation nationale. Je note avec satisfaction que Monsieur Lang, quand même, n'exonère pas Monsieur Sarkozy et ses ministres de ses responsabilités concernant la formation et la suppression de poste, mais je voudrais aussi rappeler à Monsieur Lang qu'il avait quand même acheté, entre guillemets, la paix sociale après l'ouragan Allègre, lorsqu'il était ministre.
Et nous l'avons ressenti dans les... En quoi ? Par quelle mesure aurais-je acheté la paix sociale ?
D'une certaine façon, oui, monsieur.
En quoi ?
Je pense que Monsieur Allègre avait des relations exécrables avec les syndicats, avait beaucoup perturbé le monde éducatif et que vous avez été nommé, disons, pour rétablir une certaine sérénité dans l'éducation nationale sans réformer aussi profondément qu'il aurait fallu le système qui en a bien besoin. La dernière remarque, question que je voulais faire, ça me gêne quand même que un personnage politique qui a des fonctions, je parle de la présidence de l'IMA, nommé par M. Hollande président de la République.
De l'Institut du Monde Arabe, oui.
Voilà. Fasse un bilan aussi critique du gouvernement. Il me semble que la crédibilité des hommes politiques, c'est d'être solidaire des gens qui les nomment. Et là, ça me gêne un petit peu.
Vous pensez qu'il y a une forme de déloyauté, c'est ça que vous voulez dire, Martine ?
Une certaine façon, oui.
Jack Lang.
Mais d'abord, lisez le livre, et non pas les résumés parfois caricaturaux qui en sont faits. Dans ce livre, j'adresse...
Ah non, j'ai pas fait de résumé caricatural.
Non, mais je dis de quelle manière, depuis l'arrivée de Manuel Valls et de l'actuel ministre, les choses ont bougé et changé positivement. Je rappelle que François Hollande est mon candidat, en tout cas,
oui,
parce que je pense qu'il pourra prolonger cette évolution positive. Alors, en ce qui concerne le reste, je n'ai pas le sentiment que établir un rapport de confiance et de sérénité avec la communauté éducative soit une manière d'acheter la paix sociale. C'est une nécessité. Vous ne pouvez pas changer un système comme celui-là par un climat d'agressivité et de non-confiance. Alors, quant aux itinéraires de découverte, c'est peut-être trop compliqué à cette heure-ci, mais j'en parle d'ailleurs dans ce livre. Oui, en effet, je persiste à penser. C'est pourquoi je soutiens, madame, l'architecture de la réforme du collège de Najat Vallaud-Belkacem. Je pense qu'à côté du tronc commun au collège, c'est une bonne chose d'offrir la possibilité aux élèves de choisir certains enseignements, certaines matières plus en harmonie avec leur goût, leur talent, et ainsi ils peuvent montrer davantage leur capacité de découvrir, d'agir et d'apprendre. Et je pense que ce mariage entre un tronc commun et quelques matières choisies librement est une bonne chose. Ça s'appelait itinéraire de découverte en mon temps. Ça s'est cassé la figure, non pas du tout parce que ça n'a pas marché, tout simplement parce qu'il y a eu un changement de gouvernement qui a tout rasé.
Puisque vous parlez de politique, vous avez tracé quelques perspectives pour la prochaine présidentielle, Jack Lang. En mai dernier, à ce même micro, vous nous disiez que vous étiez pris de nausées par le spectacle attristant donné par les divisions de la gauche et du Parti Socialiste. Ça ne s'est pas arrangé depuis,
ça ne s'est malheureusement
ni la gauche,
pas,
ni votre État.
Ça ne s'est malheureusement pas arrangé, pardon. Non, c'est attristant, ce spectacle que la gauche ou l'ego, je ne sais plus très bien, offre un candidat chaque semaine, représentant quoi, incarnant quoi.
Et vous êtes favorable au processus de la primaire à gauche ou pas ?
Il est enclenché, il faut qu'il aille à son terme de façon aussi raisonnable que possible. Personnellement, je pensais, et là je suis évidemment d'une autre sensibilité, je pensais que le président de la République, par ses fonctions, était le candidat naturel, s'il le voulait, à la prochaine élection présidentielle. Il en a décidé autrement.
Il n'a peut-être pas le poids pour en décider autrement.
Oui, c'est ainsi, en tout cas.
Peut-être trop affaibli pour...
C'est ainsi. Mais réellement, franchement, le spectacle qui est offert aujourd'hui est un spectacle consternant.
Les réseaux sociaux, Camille Magnard.
Alors, un échec, abandon, dites-vous, Jack Lang, de l'école publique. Il y a des modèles alternatifs que nous proposent les Twittos ce matin. Emilia vous interroge sur les écoles Montessori, qui, selon elle, ont de très bons résultats et qui impliquent bien les enfants. Et puis, Hugo Blondel vous interroge, serait-il judicieux de s'inspirer des pays nordiques souvent donnés comme modèle?
Oui, mais j'évoque dans ce livre Montessori, et j'ai beaucoup d'admiration pour toutes ces méthodes que j'ai contribué, quand j'avais les rênes, à soutenir, le mouvement Freinet, Steiner, Montessori et d'autres. Et je pense qu'en effet, à partir du moment où la ligne générale du système est clairement établie, on doit encourager les expérimentations.
Les encourager ou s'en inspirer pour...
Ou s'en inspirer. Et c'est d'ailleurs une raison pour laquelle, dans ce petit bouquin, je préconise, plagiant, je dirais, Fabienne Pascot, qui a organisé à Avignon les états généreux de la culture, je préconise l'organisation d'états généreux de l'éducation, qui permettrait de mettre en valeur les mille et une initiatives qui animent la vie scolaire en France.
Et vous voyez bien qu'en ce moment, il y a une petite musique sur l'éducation qui favorise plutôt l'idée d'un retour à l'autorité, à la verticalité. On fustige l'idéologie de l'épanouissement de l'enfant. Il faut que le maître redevienne le centre de tout. Et que le savoir soit transmis de façon verticale, c'est ça qui monte beaucoup en ce moment.
Oui,
parmi les intellectuels, ouais. dans les journaux, dans les unes des hebdos, c'est ça.
Mais qu'y a-t-il derrière ces mots? Moi, je suis pour une école de la rigueur et du bonheur. Pour une école qui, sur toute une série de sujets, soit absolument exigeant. Et des maîtres nouvellement formés aussi, beaucoup plus proches du terrain, et aussi des recherches en éducation qui ont été totalement abandonnées en France, totalement abandonnées, à la différence des pays nordiques
sur lesquels vous m'interrogiez. L'éducation nationale permet-elle, donne-t-elle assez d'autonomie aux établissements pour que des recherches puissent avoir lieu?
Mais non, c'est une volonté de l'État. Il y a eu des époques où la recherche en éducation a été stimulée, organisée.
Elle ne l'est plus.
Aujourd'hui, les choses bougent, on doit tenir compte de l'évolution de l'imaginaire collectif, on doit tenir compte de l'arrivée du numérique, etc. Or, tout cela est un peu mis à l'écart. Et donc, quand vous évoquez la réussite des pays nordiques, la recherche en éducation occupe une place très importante pour déceler les méthodes les plus efficaces.
Quelques messages enfin qui souhaitent revenir sur ce que nous disions juste avant 8h30 à propos de la laïcité du burkini. Jack Lang, Marie de Nice qui vous dit « En tant que femme progressiste, j'ai l'impression que porter un burkini est une atteinte au combat mené par la femme depuis plusieurs dizaines d'années. Que pense Jack Lang de ce sujet ?»
D'abord, personne, aucun d'entre nous, n'a pénétré à l'intérieur de l'esprit, de la personne qui porte un burkini. Et j'imagine qu'il y a beaucoup des raisons multiples.
Il y a parfois la pression sociale aussi.
Je me trouvais en Tunisie, où je vais chaque année pour apporter, j'allais dire, mon amitié, puis pour le plaisir d'y être dans ce merveilleux pays. Sur la plage, il y avait quelques femmes en burkini, et puis quelques autres, croyez-moi, je ne dis pas qu'elles étaient dénudées, mais enfin, elles étaient...
En maillot de bain.
En maillot de bain, voilà, disons-le. Et tout ça coexistait aimablement, sans qu'il y ait la moindre rixe. Non, ce qui a été choquant, et vous l'avez dit, c'est quand même qu'une femme allongée sur une plage soit contrainte d'être dévêtue par deux ou trois policiers. Mais dans quel monde vit-on?
Oui.
Et je dirais que qui prouve, bon, certaines, sans doute, veulent exhiber une conviction, bon, mais d'autres, en même temps... Et puis, acceptons cette diversité, cette tolérance. Et j'ai envie de dire, de conseiller à cette personne de lire le magnifique texte qu'a écrit, ou plutôt dit, le roi du Maroc, Mohamed VI, voici quelques jours.
Oui, c'était dimanche dernier.
Où il a prôné une philosophie de la paix, de la tolérance et du respect qui mériterait d'être méditée ici en France. Je crois que nous n'avons guère à gagner à ces affrontements, à cette hystérie. Je suis un militant des droits des femmes depuis fort longtemps. J'ai milité pour que le viol soit, par exemple, reconnu comme un crime. Mais en même temps, moi je n'accepte pas que l'on montre du doigt en permanence. Parce qu'au-delà des femmes en question, je parle pas de la dame qui nous interroge, mais on montre, c'est insupportable en permanence du doigt, les musulmans. Et les musulmans, dont une majorité, sont non pratiquants, sont humiliés, souvent, blessés, par toutes ces querelles et ces affrontements plus ou moins hystériques.
Jack Lang, pour une révolution scolaire, ça paraît chez Kero. Vous restez avec nous, car vous allez entendre la première de Frédéric Becbédé à propos de la rentrée littéraire. Ce sera dans 40 secondes.